Qu'est-ce que tu fais là, Marc? Force pas avec ta face. Plie tes genoux. Oui, puis soulève-la la boîte un peu, là. OK. À droite. Non, non. L'autre droite. Voilà. Bon, je peux la déposer, la boîte, maintenant. OK, on y va.
La SST expliquée avec François-Étienne Paré.
Dans plusieurs milieux de travail, les employés doivent souvent soulever des charges, petites ou grandes. Là, je ne parle pas juste de gens qui travaillent dans un entrepôt, mais aussi des gens qui travaillent dans un bureau et qui doivent, à l'occasion, recevoir une commande de papeterie, par exemple. C'est important de savoir comment bien forcer. C'est genre, pas juste avec la face? Puis il y a quelqu'un qui sait comment faire ça. Il s'appelle Denis Denis et il est professeur en ergonomie dans le département des sciences de l'activité physique de l'UQAM et aussi chercheur, dont l'IRSST a financé les travaux.
De la manutention, du déplacement de charges, il s'en fait dans toutes les organisations, là, tous les établissements moi, que j'ai visités où je forme aussi des gens là, à l'intervention en ergonomie, puis ils sont présents dans ces milieux de travail-là. Puis dans toutes les organisations, il y a du déplacement de charges, il y a des charges qui vont entrer dans l'organisation, de la matière première qui servent à fabriquer les trucs que les organisations ont à faire comme produits. Ces matières premières-là vont circuler dans l'organisation, vont aller sur les différents postes de travail où il se fait de la fabrication. Puis éventuellement, il y a des produits qui vont être fabriqués puis qui vont être expédiés aussi chez les clients. Donc, on doit stocker parfois ces produits-là, les mettre dans des camions pour la livraison. Donc, à différentes étapes, je dirais, dans le processus de production et dans toutes les organisations, il se fait de la manutention, là. Je parle beaucoup du secteur peut-être plus industriel, mais même dans le secteur des services, il se fait de la manutention. Là, on va mobiliser des personnes qu'on a pensé à le secteur des soins, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires vont aussi manutentionner les personnes. Donc, dans tous les milieux de travail, il se fait de la manutention. C'est pour ça que c'est une activité qui engendre des risques et puis il faut s'y intéresser parce qu'elle est très présente un peu partout dans les organisations. De la manutention, c'est pas seulement les gens qui s'appellent des manutentionnaires là, qui vont faire ça. Quand on cherche dans les bases de données de la CNSST pour avoir des statistiques, on va voir que les gens qui portent le titre de manutentionnaire, c'est quelques milliers de personnes, alors qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui font de la manutention. Là, j'ai évoqué tout à l'heure les gens qui travaillent dans le secteur de la santé, préposés aux bénéficiaires, infirmières, font aussi de la manutention, mais on peut penser à des gens qui posent des revêtements de sol dans la construction, les journaliers dans les municipalités, les éboueurs. C'est pas des gens qu'on appelle des manutentionnaires, mais c'est des gens qui font de la manutention de façon importante. Quelques-unes de ces personnes-là en font de façon moins fréquente, mais ça constitue un risque tout de même parce que justement, ces gens-là sont moins habitués peut-être d'en faire. Ils font de façon plus ponctuelle. Ils peuvent s'exposer à des risques là, qui sont différents que les gens qui en font un métier, par exemple.
Je constate qu'il y a plusieurs types de travailleurs, de travailleuses. On peut à peu près tous déplacer un objet du point A au point B. C'est quoi l'enjeu quand on parle de manutention?
Le défi, je te dirais, des gens qui font de la manutention, c'est de le faire 500, 1000, 2000 fois dans une journée de travail. Donc, c'est la fréquence à laquelle on doit faire de la manutention qui expose les gens à ces risques-là puis qui les oblige à développer des compétences, qui est une compétence à trouver un juste équilibre ou compromis, je te dirais, entre faire ce qui leur est demandé, donc le nombre de manutentions qu'ils ont à faire dans leur journée, mais tout en essayant de préserver leur structure corporelle, là, parce que l'instrument de travail d'un manutentionnaire, c'est son corps. Hein. C'est sûr qu'il peut utiliser des équipements d'aide à la manutention, mais d'abord et avant tout, la personne va avoir les charges dans les mains, va les déplacer. Donc, la compétence qu'on a vue chez ces gens-là, c'est vraiment de trouver l'équilibre là, entre la préservation de leur santé puis faire le travail qui leur est demandé. Mais bon, c'est un défi qui demeure compliqué parce que quand on regarde les bases de données d'accidents, effectivement, la manutention occupe une place importante là, dans les statistiques d'indemnisation de la CNESST. C'est une activité qui blesse les gens. Et quand les gens se blessent, ils s'absentent généralement pour des périodes de temps assez longues.
J'entends que c'est un problème important et que ça a un grand impact financier même. En termes de risque, on s'expose à quoi quand on parle de manutention?
Bien, les facteurs de risque en manutention, là, on en a, je te dirais, peut-être deux grandes catégories. Là. Une première catégorie, ce qu'on appelle les accidents. C'est un phénomène là, très ponctuel qui va se produire. Une personne va prendre une charge, va essayer de la soulever, puis là, va ressentir quelque chose. Généralement, on associe ça à ce qu'on appelle un effort excessif, c'est-à-dire l'effort que la personne est en train de faire surpasse la capacité de ses structures corporelles à pouvoir faire générer cet effort-là. Celui qu'on entend moins parler comme mécanisme de lésion là, chez les manutentionnaires, c'est un mécanisme d'usure. C'est-à-dire, C'est quelque chose qui va se développer au fil du temps. On parle généralement, non pas de plusieurs mois, là, mais quelquefois de plusieurs années, où il va y avoir une usure progressive des structures. Puis une journée, tu es habitué de lever cette charge-là, tu arrives pour la soulever, puis il y a un accident qui va se produire. Bien, c'est probablement relié au fait que ces structures étaient affaiblies avec le temps, qui a fait que tu t'es blessé à ce moment-là. En manutention, une des choses qu'on a pu mettre en lumière là, par les recherches qu'on a faites, c'est qu'il existe quatre types d'efforts dans toute situation de manutention. Puis généralement, il y en a un qui va être dominant un petit peu plus, mais généralement, ils sont présents les quatre là, dans toutes les situations de manutention. Puis les manutentionnaires, une des compétences qu'ils doivent développer, c'est apprendre à reconnaître le risque qui est dominant dans ces situations-là. Le premier risque, c'est celui qui est le plus connu, là, qui a été le plus documenté, c'est ce qu'on appelle les efforts excessifs. C'est de prendre une charge qui a un poids important, par exemple, qui est posé au sol, aller chercher un baril, une poche de litière, etc., au sol, qui peut peser là, 20 kg, 40 kg, on essaye de la soulever. On peut avoir des lésions reliées à ça. C'est un effort qui surpasse la capacité de tes structures à ce moment-là, puis qui peut engendrer un accident de travail là, très, très bien défini au moment où tu fais la manutention.
Comme soulever un 60 livres de garnottes qu'on veut mettre dans notre entrée de garage, puis finalement, on se rend compte qu'on n'est pas capable de soulever 60 livres de garnottes.
Un autre type d'effort qui est un peu moins connu, assez bien documenté, je te dirais, puis on commence à prendre l'ampleur là, des conséquences que peuvent avoir ces efforts-là, c'est des efforts par cumul. Sont associés à ce qu'on appelle les tonnages. Le tonnage, c'est le nombre de tonnes, le poids que tu vas manutentionner au total dans ton corps de travail. Plus ce tonnage-là est élevé, bien, plus tu es soumis à des efforts par cumul. Tu cumules les efforts dans ta journée. Et ce cumul-là peut engendrer de l'usure de ces structures ou de la fatigue aussi, qui peut faire en sorte là, que c'est des fenêtres d'opportunité pour te blesser.
Comme quand j'ai déplacé 45 boîtes de tuiles, de céramique, les trois premières, je me suis dit « facile ». Les trois dernières, je pleurais.
Les deux derniers, un terme un peu compliqué, là, qu'on appelle des efforts asymétriques. Moi, j'utilise le terme « travailler tout croche » là, quand je travaille avec les manutentionnaires. C'est le fait de ne pas avoir une posture qui est équilibrée, d'être en flexion sur le côté, donc les fameuses torsions dont on entend beaucoup parler en manutention. C'est un facteur de risque pour te blesser, effectivement, parce que ce que tu fais quand tu fais ça, c'est au lieu de répartir le chargement sur l'ensemble de tes structures corporelles, tu les concentres sur une partie de ces structures-là parce que tu ne travailles pas de façon équilibrée. Maintenir une charge d'un côté du corps, ne pas l'avoir de l'autre côté, transporter une échelle, par exemple, sur son épaule, créer une espèce de phénomène d'effort asymétrique là, qui peut créer des problématiques de TMS.
Comme la fois où j'ai barré du dos parce que mon fils me dit « Je pense que t'es même pas capable de me lever avec une main. Oh ouais, regarde bien ça! » Et voilà, trois jours à marcher plié en deux.
Le dernier effort, moi, que j'aime beaucoup raconter aux manutentionnaires parce qu'il est très présent puis il est sous-estimé, c'est ce qu'on appelle les efforts soudains. Il y a deux façons de faire des efforts soudains en manutention. Soit en perdant ton équilibre. C'est quand tu ajoutes une charge externe à ton corps, tu perturbes ton équilibre en faisant ça. Il y a beaucoup de phénomènes de perte d'équilibre là, qu'on appelle de plein pied. Là, on n'a pas des chutes en hauteur, mais c'est bel et bien sur les mêmes surfaces que les gens vont perdre d'équilibre. Donc, en voulant récupérer ton équilibre, tu forces contre ton mouvement que tu viens de faire et c'est une source de blessure.
Je pense qu'on est mieux de pas tenir la laveuse de même! Bon.
Puis l'autre façon de faire des efforts soudains, c'est en perdant le contrôle de ta charge. L'exemple qui me vient toujours en tête, c'est les préposés aux bénéficiaires dans les hôpitaux qui essayent de déplacer une personne qui est un peu confuse, en perte d'autonomie. Puis là, soudainement, dans la manutention, la personne se réveille, réagit à ce qui vient, à ce qui lui arrive. Le préposé doit la tenir, récupérer ce mouvement-là. Donc, le mouvement de récupération peut engendrer un effort de haute intensité sur une courte période de temps. Puis c'est une source de blessure là, assez fréquente chez les manutentionnaires.
Ouais, si j'avais su mieux reconnaître les risques, ça se serait peut-être mieux passé pour moi. Ah! Je savais pas que dans la manutention, il y avait autant de facteurs à considérer.
Le portrait que j'ai dépeint un peu de la manutention, il peut paraître un peu pessimiste. Hein? Il y a plusieurs personnes qui se blessent, tu sais, que j'ai parlé, mais il existe quand même plusieurs solutions là, qu'on peut mettre en place dans les milieux de travail. Mais moi, je vois vraiment ça comme une responsabilité partagée entre l'employeur puis les travailleurs. Là. On a tendance, je trouve, quelquefois, à faire beaucoup reposer sur le dos des travailleurs et des travailleuses de la prévention en les formant. C'est souvent la seule avenue de prévention qui est exploitée. Là. C'est une demande qui est très importante des employeurs pour avoir des programmes de formation. Puis tu comprendras que je suis tout à fait partant pour faire ça. Là. C'est la spécialité que j'ai développée. Mais il faut aussi que l'employeur puisse offrir des conditions de travail qui sont propices à leurs employés en jouant sur différents aménagements des conditions dans lesquelles se fait la manutention pour essayer de réduire là, les risques auxquels s'exposent les manutentionnaires. La formation demeure une avenue de prévention là, qui est à priser, mais je te dirais peut-être dans une autre façon qu'on a vues dans les dernières années. Moi, je conteste pas mal cette avenue-là de ne montrer qu'une seule méthode de travail aux manutentionnaires. On a beaucoup parlé, j'imagine tout le monde a entendu parler du fameux dos droit, genou fléchi. Fléchis tes genoux, garde ton dos droit pour manutentionner. Moi, ce que je me plais à dire, là, c'est comme si Tiger Woods avait seulement un bois 1 dans son sac de golf, là, puis on lui demandait de jouer sa ronde de golf avec seulement un bâton. Là. Je trouve que c'est réducteur que de montrer une seule technique de travail aux employés qui font face à des situations qui sont très variables, très changeantes.
Hey, je viens de comprendre quelque chose, là. Faudrait que j'arrête de jouer mes rondes de golf au complet avec juste mon putter, moi.
Un autre avenue où l'employeur peut contribuer, c'est en donnant ce que j'appelle moi des ressources aux employés pour qu'ils puissent faire leur travail. Une des ressources qu'on leur demande de fournir, c'est des équipements. Des équipements qui sont adaptés à faire la manutention que les gens ont à faire. Moi, je regarde toujours ça selon trois perspectives. Est-ce que l'équipement est bien conçu? Puis lorsqu'il n'est pas bien conçu, même si on le met à la disposition des employés, ils ne vont pas l'utiliser. Puis là, les employeurs sont surpris, pourtant on a payé ça cher, mais... Quand on regarde un petit peu plus ce que les personnes font, on se rend compte que l'équipement n'est pas adapté à la manutention ou aux charges, aux caractéristiques des charges. Donc, il faut bien le concevoir, cet équipement-là. Il ne suffit pas de le fournir. Il faut aussi qu'il soit bien conçu pour ce qu'il y a à faire. Puis, il y a deux autres éléments que je regarde. Est-ce qu'il est disponible? Hein? Quelquefois, on rentre dans des milieux de travail, les gens disent « Ben oui, j'aimerais bien ça l'utiliser, mais là, il est à 500 mètres, il y en a juste deux. Les autres, mes collègues l'ont pris, donc il n'y a pas suffisamment d'équipement, donc il n'est pas disponible. » Puis le dernier point qui n'est pas à négliger aussi, ces équipements-là, ils s'usent avec le temps. Hein? On les met à l'épreuve, donc ils vont s'abîmer. Il faut qu'il y ait un programme d'entretien aussi de ces équipements-là, d'une maintenance qui soit faite pour ces équipements-là, pour qu'ils soient bien entretenus, donc faciles à utiliser par les employés.
Ouais, c'était vraiment intéressant cet épisode-là. J'ai appris plein d'affaires. Mais j'espère vraiment que dans les autres épisodes, je ne me retrouverai pas encore à l'hôpital. Non, mais je sais pas. Ce serait le fun, un épisode où je me retrouverais à Disney, à Punta Cana, aller voir l'opéra, à la Scala de Milan, escalader le Mont Everest, aller danser en Australie avec les kangourous.
Écoutez les autres épisodes de la SST expliquée sur votre plateforme préférée.
Phonique. Le fin son de l'histoire.